France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, une actualité anxiogène, un monde qui semble de plus en plus indéchiffrable, sans phare ni boussole, un monde devenu de plus en plus déprimant, des difficultés personnelles, existentielles, et si l'un des remèdes à tous ces maux passait par les oiseaux, les observer, écouter leurs chants, se sentir pleinement présent au monde grâce à eux, de plus en plus d'études scientifiques démontrent les effets bénéfiques sur notre santé et notre bien-être. Alors comment les voir et les écouter vraiment? Et comment vaincre ses peurs, ses appréhensions face à un merle, un pinson, une corneille ou un rouge-gorge? Éléments de réponse avec nos invités Élise Rousseau et Philippe J. Dubois, et avec la journaliste et autrice Yolaine Delabigne. Et vous, quel rapport entretenez-vous avec les oiseaux? Racontez-nous le bien-être qu'ils vous procurent ou alors l'horreur qu'ils vous inspirent au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Ici au printemps, on a la fameuse gorge bleue à miroir, niche au milieu des roseaux. L'aigrette garzette, on la reconnaît puisqu'elle est toute blanche, un beau bec noir. On n'est qu'en juillet. Mais ces grands échassiers nichent à partir du mois de février chez nous, en France. Cisticole des joncs, tic,
tic. Ah ouais.
C'est la façon de se montrer pour le mâle à la période de reproduction.
Ces chants d'oiseaux, je les entendais, mais je ne pouvais pas les situer. Donc maintenant, je saurais en parler à mes petits-enfants et faire mon érudite.
Les oiseaux sont en rendez-vous et on les observe, ils nous observent, on vit ensemble, en communauté, et chacun respecte l'autre. Enfin, on essaye.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Pays de la Loire en 2021. Bonjour Philippe Dubois.
Bonjour. Allez.
Vous êtes écologue et ornithologue à la Ligue de protection des oiseaux. Bonjour Élise Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes naturaliste, ornithologue et cavalière et vous publiez ensemble chez Albin Michel un très beau livre, Ornithérapie. Et le 21 mars dernier, vous faisiez même la une et les pages événements du quotidien Libération. Quelle consécration.
Mais écoutez, oui, peut-être c'est la preuve que dans un monde tellement anxiogène, comme vous disiez, parler un peu des oiseaux et du bonheur qu'ils nous procurent nous fait du bien.
Et dans Libération, vous racontiez que les oiseaux étaient votre oxygène et que deux jours loin de leur contact vous déprimaient, Philippe Dubois. En tout cas, le chant des oiseaux constitue pour vous une sorte de baume sonore.
Ah, complètement. C'est vrai que quand je suis en ville, même s'il y a des oiseaux, je n'ai qu'une envie, c'est de retrouver ma Bretagne, d'aller me promener, de me replonger avec eux et de les écouter, et de me fondre dans cette nature qui est vitale, quoi.
Vous écrivez « Difficile de ne pas sourire en observant le petit manège des oiseaux, souvent amusant, généralement fort beau dans leurs costumes colorés, parfois mystérieux et intrigants. Ils n'ont pas leur pareil pour capter notre attention, pour peu que l'on soit sensible à cette faune. »
Oui, c'est la beauté, l'oiseau, c'est la beauté, c'est la beauté déjà visuellement, c'est la beauté aussi de leur chant, souvent c'est la beauté de leur comportement qui sont passionnants, qui peuvent être effectivement très amusants si on prend le temps de les regarder. Et c'est vraiment, enfin nous, dans notre vie de naturaliste, on s'est rendu compte du bonheur en fait que ça nous procurait au quotidien, et c'est vraiment cette envie de partager ça avec tout le monde, de dire mais prenez juste un petit instant pour regarder les oiseaux, vous allez voir comme ils rendent notre vie plus joyeuse.
Et à quand remonte votre fascination pour les oiseaux, Philippe Dubois ?
Depuis toujours, ma grand-mère donnait à manger aux oiseaux. Ma grande-tante m'avait offert, quand j'étais tout jeune, un guide qui s'appelait le Peterson, où les oiseaux étaient tous alignés les uns sous les autres. Je trouvais ça ennuyeux. Et puis, je prends un jour de pluie, j'ai dû réouvrir le bouquin. Et je me suis dit, mais si j'allais regarder... Si j'ai regardé ces oiseaux, j'avais une passion depuis toujours qui n'avait rien à voir, qui était les vaches.
Et je rien à voir.
Rien à voir, et pourtant, c'était aussi dehors. Donc c'est à ce moment-là où je me suis pris au jeu d'essayer d'identifier les oiseaux qui étaient sur ce guide. Et puis ça ne m'a jamais quitté.
Élise Rousseau.
Eh ben c'est pareil, je crois que s'il y a quelque chose vraiment de familial, c'est-à-dire que j'avais des grands-pères qui étaient, l'un était professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, l'autre était vraiment un naturaliste de terrain qui allait chercher les champignons, etc. Donc qui m'ont vraiment initiée au contact avec la nature. Et j'avais des grands-mères à côté qui avaient ce côté nourricier envers les oiseaux, protection, soins, c'est-à-dire de donner à manger aux petits oiseaux, essayer de leur mettre un petit point d'eau, toutes ces choses-là. Alors chacun avait un peu sa façon de regarder les oiseaux. J'avais aussi un père qui s'amusait beaucoup avec de me montrer comment le comportement des poules, qui sont des animaux très rigolos. Et ma mère, elle dessinait les oiseaux, elle est artiste. Donc chacun, en fait, à son niveau, avec sa façon d'appréhender les oiseaux, m'ont montré à quel point ces animaux étaient fabuleux, à quel point ils étaient la beauté, la liberté. Et puis ils sont aussi la façon la plus facile, finalement, d'aborder le monde sauvage, parce que les mammifères ou les insectes peuvent être peut-être un peu plus difficiles à appréhender pour le grand public. Or, l'oiseau est là parmi nous, même en ville, il est partout. Et pour tout un chacun, on peut vraiment avoir un contact intime avec la nature la plus sauvage qui soit, mais de façon assez facile grâce aux oiseaux.
Bonjour Hélène de Labigne.
Bonjour Ali.
Journaliste, autrice, conférencière, vous avez fondé l'association L'Animal et l'Homme, et vous publiez en poche et Litos L'Animal médecin. À quand remonte votre fascination pour les oiseaux ?
Alors, moi quand j'étais petite en Bretagne, mais c'est un souvenir d'enfance, les amis de mes parents descendaient, ils disaient, oh, c'est incroyable, j'ai été réveillée par les oiseaux. Et quand je suis revenue en Bretagne il y a 30 ans, c'était le printemps silencieux. Il n'y avait plus rien, plus d'oiseaux, ça m'a complètement déprimée. Et du coup, on a replanté 4 km de haies, on laisse des ronciers aux grandes dames de mes voisins qui trouvent que c'est sale. Je les nourris l'hiver, je leur donne de l'eau l'été, et maintenant, c'est dingue. Je pense que, en fait, comme je suis entourée de routes, je pense qu'on est devenu un peu une espèce de paradis d'oiseaux, et ça chante tout le temps. À toutes les saisons, ce qui est incroyable, à toutes les heures, alors plus ou moins, mais franchement ça chante tout le temps. Et maintenant, à nouveau, c'est ma grande fierté, j'avais des amis ce week-end qui sont descendus, qui m'ont dit, mais c'est dingue, on a été réveillés par les oiseaux, même quand les portes, les fenêtres sont fermées, on entend les oiseaux. Et c'est, alors d'abord pour moi, c'est une victoire fabuleuse, qui montre que quand on aide un peu la nature, elle est tellement résiliente qu'elle revient. Et en effet, c'est ce que vous venez de dire tous les deux, c'est un enchantement au quotidien, c'est-à-dire qu'on sort de chez soi, on n'entend pas des voitures, on entend un concert, une variété, plein de messages étranges qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, mais c'est merveilleux.
Pendant le premier confinement, il y a 5 ans, à la même époque, on a connu cet enchantement. L'un des grands bonheurs, c'était d'entendre chanter les oiseaux dans les villes, Élise Rousseau.
Oui, c'est vrai que les gens se sont mis à se rendre compte que les oiseaux étaient là, peut-être parce qu'ils avaient un peu plus de temps, ils avaient simplement ce temps pour observer, pour écouter, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient là en fait, et qu'ils animaient nos villes, mais ils sont toujours là, même si le Covid n'est plus aussi actif. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que quand on prend ce temps d'aller à leur rencontre, de les écouter, de les laisser venir à soi, ça nous fait du bien. Je pense qu'effectivement, peut-être pendant le Covid, les gens ont pu se rendre compte de comme ils ont cherché peut-être aussi un peu à se raccrocher à tout ce qui faisait du bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, à portée de main, il y avait les oiseaux.
Et de plus en plus d'études scientifiques montrent les bienfaits des oiseaux sur notre santé, notre bien-être, Philippe Dubois.
Oui, absolument. Il y a des études scientifiques, principalement anglo-saxonnes, qui montrent déjà, l'Université de Michigan a montré que dans les régions où la biodiversité à Vienne était forte, eh bien, il y avait une diminution des hospitalisations liées aux troubles de l'humeur. Et par ailleurs, 20 minutes dehors, donc dans un bain de nature, va faire tomber de façon significative votre cortisol.
Le cortisol qui est l'hormone liée au stress.
Absolument, c'est exactement ça. Et donc, en fait, 2 heures par semaine, et cette diminution du taux de cortisol va réellement avoir un effet pérenne. Et mieux encore, pour les oiseaux, ça a été mesuré très précisément au bout de 5 à 7 minutes, mettons 6, d'écoute de chant d'oiseau. Toutes nos pensées irrationnelles, notre stress va diminuer significativement, et il va diminuer pour une période qui peut aller jusqu'à 8 heures, quoi.
Et puis, observer les oiseaux peut constituer, et vous l'expliquez dans votre livre, un remède contre l'éco-anxiété. Je vous cite, côtoyer les animaux, les oiseaux, peut modifier, voire bouleverser notre perception de la vie.
Oui, alors c'est vrai que l'éco-anxiété, nous, c'est, en tant que naturaliste, c'est quelque chose auquel on est confronté depuis longtemps. C'est-à-dire que les ornithologues ont commencé à être éco-anxieux bien avant qu'on en parle dans le grand public. Et finalement, c'est des questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette éco-anxiété? Parce que c'est quelque chose qui peut être très envahissant, surtout quand on est en contact avec la nature et qu'on se rend compte des énormes disparitions des espèces et de tous les impacts actuels sur le vivant. Et finalement, en fait, en y réfléchissant, de toute façon, c'est jamais la faute des animaux, des oiseaux, c'est un fait humain, en fait, hein, ces problèmes qui génèrent l'éco-anxiété. Et donc, ça reste quand même pour nous la meilleure façon, finalement, pour moi en tout cas, de lutter contre l'éco-anxiété, c'est de me replonger dans la nature, d'être dans le temps présent, d'être dans l'observation des animaux, des oiseaux. Et c'est vrai, c'est un vrai remède, en fait.
Yolaine Delabigne.
Alors, j'ouvrirais presque, c'est-à-dire qu'évidemment les oiseaux, mais la nature d'une façon générale, regarder des chevaux, se balader en forêt, etc. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'animal médecin, on parle de la médiation animale, vous savez, maintenant on utilise des chiens, des chevaux, etc. pour soigner les gens. Et en fait, le premier animal, c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui au XXe siècle, le premier animal qui a été utilisé, c'était au IXe siècle en Belgique, on confiait des oiseaux à des malades en convalescence, ça les aidait à guérir, parce qu'en effet ils s'occupaient d'un être vivant, que c'était beau, que c'était drôle, enfin tout ce que vous racontez dans votre livre. C'est intéressant quand même, c'est le premier animal qui a été utilisé en médiation.
Élise Rousseau, Philippe Dubois, chez vous en Bretagne et ailleurs en France, on peut entendre l'alouette des champs. Racontez-nous ce que vous ressentez quand vous écoutez le chant de cette alouette des champs, Élise Rousseau.
Ah bah l'alouette, c'est joyeux en fait. Pour moi, c'est vraiment cet oiseau qui chante dans le ciel. Pour moi, c'est la joie.
Philippe Dubois.
Alors moi, c'est l'annonce du printemps, parce qu'elle chante assez tôt en saison. S'il fait très doux un début de février, elle va chanter. Et d'un seul coup, cette nature qui a été silencieuse pendant des semaines, pendant des mois, d'un seul coup, l'air vibre de ce chant, comme dit Élise. D'abord, c'est un oiseau qui chante en vol, qui s'élève dans le ciel. Et ce chant, ce tri joyeux, insouciant, c'est vraiment une promesse des beaux jours. C'est un des chants les plus optimistes que je connais.
Alors dans quelques instants, vous verrez comment mieux observer et écouter les oiseaux et comment surmonter votre appréhension ou votre phobie en compagnie du psychiatre Antoine Pellissolo. La chronique tout à l'heure, Gwenaëlle Boulay, ma vie de parent. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Poppy et de Pomme d'Api. Non, parce que vous regardiez avec intensité, je sens que vous étiez...
Attentive
à ce chant de l'alouette des champs.
Oui, tout à fait. Non, mais moi, je vous parlais de nos ados qui, chez nous, lèvent beaucoup les yeux au ciel, mais malheureusement pas pour regarder les oiseaux.
Grand bien vous fasse.
Parce que tu trouves ça calme, toi.
Ah oui.
Ah merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être. Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux oiseaux qui nous font du bien. On s'intéressera également à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas très rassurés en présence de pigeons ou de corneilles. Je vous propose d'écouter le spécialiste en biodiversité, Jean-Noël Riffel, en janvier 2023 sur France Culture.
Je pense que nous aimons les oiseaux parce qu'ils nous apportent de la beauté dans notre quotidien. L'apparition des oiseaux dans notre quotidien, c'est le surgissement d'une grâce. C'est une petite épiphanie, que ce soit par leur vol, par leur chant, qui est une manière d'habiter l'espace, toujours très variée, très subtile, parfois sous forme d'une sourdine, parfois sous la forme d'une clameur marine comme le goéland. Et donc toutes ces petites manifestations des oiseaux nous ancrent dans le présent et nous questionnent dans notre rapport à la nature et notre manière d'appréhender cette nature.
Jean-Noël Riffel qui nous parle de petite épiphanie, de révélation d'une réalité cachée. C'est ce que vous ressentez en écoutant le chant des oiseaux ou en les observant, Philippe Dubois, Élise Rousseau, co-auteur, co-autrice d'Ornithérapie. Élise Rousseau.
C'est vraiment ce bonheur, cette beauté, c'est vraiment ce qu'on a envie de transmettre. Je connaissais une dame qui disait pendant longtemps je voyais pas les oiseaux, ils étaient là, ils faisaient partie du paysage, mais je les voyais pas. Et à partir du moment où elle s'est mise à les regarder, c'est comme si elle avait eu une révélation de tout un monde en fait dont elle se rendait pas compte, de toute une vie qui circule tout autour de nous, même en ville. Je leur dis, j'étais hier au Jardin des Plantes et il y a plein de choses qu'on peut observer. Enfin, c'est vraiment un menu peuple en fait qui vit à nos côtés et qui fait partie de notre vie beaucoup plus intimement qu'on ne le pense.
Jean-Noël Riffel dit également dans une interview une très belle chose, je le cite. Il nous dit que les oiseaux sont des poids plumes qui allègent le poids de l'existence. Vous ressentez ça, Philippe oui. Dubois, à leur contact ?
Complètement, dans ce sens où, dans ce monde d'immédiateté, où on zappe d'un sujet, on va d'un sujet à l'autre, les oiseaux nous rappellent deux choses. D'abord, le temps long, et d'autre part, l'instant. C'est paradoxal, mais quand même, les oiseaux, ils sont dans l'instant présent. Et posés sur une branche, la seconde d'après, ils sont déjà partis. Et en même temps, ils se défient complètement du passé. Ils ne sont pas comme nous à ressasser, avec regret parfois, le passé. Ils n'ont pas peur de l'avenir. Ils n'ont pas d'angoisse par rapport à l'avenir. Donc, ils nous apprennent, je pense, en les regardant et en vivant à leur côté, cette forme d'humilité et de simplicité que nous devrions avoir, que nous avions peut-être, mais que nous avons sûrement perdu aujourd'hui. Et c'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles j'aime être avec les oiseaux, c'est qu'ils m'apprennent non seulement la patience, parce qu'il faut être très patient pour les observer, pour très peu de temps aussi, et puis cette espèce d'humilité par rapport au temps, et c'est pour moi, c'est vraiment une leçon de sagesse.
Vous l'évoquez dans votre livre, les oiseaux ont contribué à alléger certaines difficultés de votre vie, Élise Rousseau.
Oui, alors moi je connais même des ornithologues qui disent que les oiseaux leur ont sauvé la vie, et je pense que c'est pas une exagération en fait, je pense que vraiment il y a des personnes qui ont pu trouver vraiment beaucoup de réconfort auprès d'eux. Je pense qu'en fait, l'oiseau, mais les animaux en général, en fait, ont pour faculté de nous ancrer dans le temps présent. C'est ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre gros souci des humains, c'est d'être toujours un peu tourné vers le passé ou vers le futur, d'avoir un peu de mal à s'ancrer dans le temps présent. Or, toutes les psychologies, toutes les sagesses, toutes les philosophies humaines nous disent que le bonheur réside dans le carpe diem, dans l'ancrage dans le temps présent. Et les animaux, naturellement, en fait, sont pleinement dans ce temps présent, et si on veut les observer de façon correcte, on est obligé à un moment donné de se mettre dans ce temps présent avec eux, de lâcher prise, d'être vraiment de se fondre en fait avec la nature, avec le monde, et ça en fait c'est naturellement, ils nous font quelque chose qu'on a du mal à faire en tant qu'humain. Nous, ça nous demande, on est obligé de faire du yoga, on est obligé de faire des méditations de pleine conscience, on est obligé de faire plein de trucs, on est obligé de se rappeler d'être dans le temps présent. C'est compliqué pour un humain, et l'oiseau le fait naturellement, l'animal le fait naturellement, et en fait en le faisant ils nous entraînent à le faire en fait dès lors qu'on les regarde.
Yolaine Delabigne, autrice de L'animal médecin.
Alors évidemment, complètement d'accord, et pour compléter ce que vous dites, ce que je trouve formidable chez les animaux, les oiseaux et tous les autres, c'est que en fait, ils sont à leur place. Et moi, je trouve que c'est ce que les animaux m'apprennent. Alors que nous, on a beaucoup de mal à être à notre place. On veut toujours être à la place de quelqu'un d'autre. Dès qu'on est petit à la maternelle, on veut être plus fort, on veut avoir le jouet qu'il a lui, on veut être plus beau, plus riche. Et on va bousiller notre vie pour gagner plus d'argent, pour se maltraiter, pour être plus belle, etc. L'animal, ça lui vient même pas à l'idée. L'animal, il est très pragmatique. En fait, ce qu'il veut, c'est vivre et bien vivre. Donc, il est à sa place. Et je trouve que c'est une leçon de sagesse extraordinaire. Être ce que l'on est, s'en contenter, et être heureux de ce que l'on est. Quelle leçon !
Vous le disiez, Philippe Dubois, pour bien écouter, bien observer les oiseaux, il faut réapprendre le silence, l'écoute, mettre son ego en veilleuse, être patient et discret. Ce sont des qualités indispensables quand on pratique l'ornithologie ?
Complètement. Faut redevenir un animal, en fait, tout simplement. Et puis, faut aussi travailler, et ça c'est un gros sujet, et un sujet que nous avons perdu, faut travailler nos sens. Les hommes sont en train de perdre peu à peu leur sens, je parle même pas du sens de l'orientation. Avec les GPS, on est incapable de s'orienter. Bon. Ça nous fait travailler notre ouïe, et ça nous fait travailler notre vue. C'est-à-dire qu'avec l'ouïe, on va passer de l'entendre à l'écouter, ce qui n'est pas du tout la même chose. Entendre un chant comme ça et l'écouter, c'est pas du tout la même chose. Et avec la vue, on va passer du voir, on voit un vol de mouettes, à regarder. et en regardant et en écoutant, alors on va rentrer infiniment plus dans l'intimité des oiseaux. Et en plus, on va travailler ces sens, et qui nous permettra d'ailleurs, plus tard, de peut-être être moins sourd à un certain âge, ou moins malvoyant que d'autres, parce qu'on aura fait travailler ces sens.
Rappelez-nous la différence entre regarder et voir, écouter et entendre.
Eh bien, on rentre là dans un processus où on est conscient de l'importance de nos sens. Nos sens, comme je le disais, comme on est dans un environnement bruyant, dans un environnement immédiat, on laisse aller nos sens. Voilà. Moi, j'ai été frappé avec Élise, quand on a voyagé en Mongolie, de voir, par exemple, la vue qu'avaient les Mongols qui étaient avec nous, capables de repérer des gazelles à 2 kilomètres, alors qu'on les voyait comme des points avec nos jumelles. Et eux, les voyaient. On s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont... Voilà. Et Louis aussi, avoir cette capacité, moi je fais le test en forêt avec des gens, on prend 1 minute, et on écoute, et je leur dis, je leur demande pas d'identifier les oiseaux, je leur dis, vous avez entendu combien de sons différents? Et la plupart des gens disent, en 1 minute, j'en ai entendu 4 ou 5. Moi j'en ai entendu 9. C'est pas forcément que j'ai une meilleure oui que, c'est que j'ai fait travailler, j'ai mis en action ce sens de Louis. Et quand vous mettez en action ce sens de Louis, comme celui de la vue, vous allez attraper beaucoup plus d'informations, et avec les oiseaux, donc vous allez fatalement rentrer davantage dans leur intimité.
Élise Rousseau ?
Ah bah oui, tout à fait d'accord.
Ça s'apprend, hein, d'écouter et de voir plutôt que d'entendre et de regarder.
Mais c'est vrai que les oiseaux, en fait, nous demandent vraiment un travail sur nous-mêmes. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut aller dans la nature à leur rencontre, on va être obligé de travailler même sur notre posture, notre façon de marcher, notre façon de regarder. Parce que nous, on est des grands prédateurs. Les humains, on l'oublie. On fait peur aux animaux. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se remette vraiment en question, qu'on reprenne effectivement ces sens des hommes originels qu'on était, qu'on a longtemps été. C'est-à-dire retrouver nos sens naturels et retrouver aussi une façon de marcher dans la nature. Parce que l'oiseau va très bien faire la différence entre un humain en action de prédation et un humain qu'on peut laisser approcher parce que finalement il a l'air à peu près inoffensif. Donc il va falloir apprendre à travailler sur plein de choses. En fait, c'est en ça que c'est aussi une forme de thérapie, c'est-à-dire que ça nous oblige en fait à avoir toute une démarche. Et ça s'apprend, bien sûr. C'est-à-dire qu'on apprend petit à petit à devenir un meilleur naturaliste.
Il faut bien en convenir, hein, la connexion avec les oiseaux est plus facile pour certains que pour d'autres. Il faut parfois un travail personnel pour y parvenir.
Oui, bien sûr, mais après c'est comme tout, hein, tout s'apprend, et puis petit à petit, puis les oiseaux nous apprennent les choses relativement vite, dans le sens où si ça leur va pas, ils s'envolent, hein, donc l'observation peut vite tourner court, donc on est bien sûr obligé de, parce que l'idée c'est quand même d'aller à leur rencontre dans le plus grand respect, si c'est possible de les laisser plutôt eux venir à nous que de nous aller à eux, c'est-à-dire que quand on observe un oiseau, vraiment le but c'est de ne jamais le faire s'envoler, ne jamais le déranger, et être dans un rapport vraiment pacifique et bienveillant avec lui. Donc c'est vrai que de fait, ça nous oblige à apprendre.
Concrètement, par exemple, il faut avancer en biais, le regarder pas directement dans les yeux, plutôt de côté, c'est ça ? Donnez-nous des petits conseils que l'oiseau s'envole quand on l'observe.
J'ai appris ça notamment avec les chevaux qui sont des animaux proies. C'est-à-dire que les animaux, ils n'aiment pas du tout notre côté prédateur. D'ailleurs, les corvidés savent très bien reconnaître un chasseur de quelqu'un qui n'est pas chasseur. Ils n'aiment pas du tout quand on avance. L'humain, on a tendance à avancer droit sur les animaux, en les regardant dans les yeux, ce qui est très agressif pour eux. Et puis on est bruyant aussi, on a tendance à faire du bruit, à gesticuler. Donc voilà, à un moment donné, il faut apprendre à se taire, il faut apprendre
à se faire tout petit.
À faire tout petit, à faire baisser un peu son énergie corporelle. Et effectivement, les oiseaux n'aiment pas du tout quand on avance droit vers eux. Donc arriver peut-être un peu plus en zigzag, un peu plus sur le côté, sans les regarder trop directement. C'est vrai qu'il y a des petites choses. Et après, selon les espèces, il y a des espèces qui sont plus ou moins tolérantes aux approches aussi. Donc on va apprendre que tel oiseau est un peu sensible, tel autre s'en fiche un peu, etc.
Les pigeons à Paris
s'en fichent un peu.
Philippe Dubois.
Oui, non, ce que dit Élise est très juste, parce que je dois confesser que c'est depuis qu'Élise m'a vraiment appris à marcher vers un oiseau que je les approche de plus près. Ouais. Franchement, j'avais une petite tendance... Peut-être le côté masculin, vous êtes prédateur qui arrive sur l'oiseau. Et c'est elle qui m'a dit, mais marche de biais et ne le regarde pas. Et effectivement, effectivement, les oiseaux voient parfaitement que vous ne le regardez pas, donc vous n'êtes pas un prédateur. Et à ce moment-là, on les approche de beaucoup plus près. Oui.
Violaine nous écrit « Je suis en burn-out et j'ai la chance de vivre dans une maison avec un jardin. C'est un bonheur d'écouter et de voir les oiseaux dès le matin ou dans mon hamac. Je conseille une formidable application pour les reconnaître, BirdNet. » Vous connaissez cette application,
oui, oui.
Philippe Dubois ?
Oui, bien sûr. Oui. Il y a BirdNet, il y a Merlin, qui consiste tout simplement, vous prenez votre smartphone, vous enregistrez un chant, si vous ne connaissez pas son auteur, et en fait, l'application va vous donner l'espèce avec une probabilité de... donc 95% c'est un merle, et 5% c'est un klaxon de voiture.
BirdNet et...
Et Merlin, M-E-R-L-I-N, ouais. Merlin.
J'ai la chance de côtoyer beaucoup d'oiseaux du côté de la forêt de Fontainebleau, mais je ne les reconnais pas. Je suis émerveillé par ces chants d'oiseaux, mais j'ai du mal à les distinguer. Est-ce que ça nuit au plaisir de ne pas connaître exactement qu'il s'agit d'un merle, d'une pie, d'une corneille et des rousseaux ?
À mes yeux, pour moi, c'est absolument pas grave, dans le sens où ça fait toujours du bien, en fait. Ça fait toujours du bien, en fait, d'entendre les oiseaux. Qu'on soit bon ou pas bon, c'est pas grave. On peut en profiter de la même façon. Après, quand on commence à se prendre au jeu, et peut-être Philippe pourra répondre là-dessus, quand on a envie de devenir un ornithologue un peu plus qui connaît les oiseaux, effectivement, ça apporte beaucoup d'informations supplémentaires et ça permet effectivement de connaître mieux les oiseaux.
Philippe Dubois ?
Oui, alors je suis d'accord, évidemment. Oui.
Mais pas totalement.
J'aime beaucoup cette phrase de l'écrivain Claude Roy qui disait « Nommer un oiseau, c'est rentrer dans son intimité. » Et quand vous voyez, vous, dans votre jardin, près de Fontainebleau, une petite boule de plumes jaune et bleue, le fait de savoir que c'est une mésange bleue, d'un seul coup, ça va créer entre elle et vous une sorte de lien. C'est-à-dire, vous allez savoir, si vous êtes curieux, vous allez regarder ce qu'est la mésange bleue, ce dont elle a besoin pour se nourrir, le nichoir que vous pourriez poser pour qu'elle niche. Donc, je pense que nommer un oiseau, c'est vrai que ça permet de mieux
donc
le connaître.
Donc, on peut éduquer son oreille grâce aux applications que
absolument,
vous avez citées.
Voilà.
BirdNet, Merlin.
Et puis aussi faire des sorties. Il y a plein d'associations qui proposent des sorties.
Yolaine Delabine.
Dans votre livre, vous dites quelque chose que je vais faire. Je l'ai noté, je trouve génial. C'est de prendre des chants d'oiseaux, 4-5, pas trop au début, sur Internet ou ailleurs, de les écouter tout le temps pour à un moment les reconnaître. Oui. Je trouve que c'est une super astuce. Et moi, je voulais juste rajouter pour le fait de marcher lentement. Moi, j'ai appris ça avec les chevaux parce que c'est la méthode éthologique. C'est aussi de marcher, de s'arrêter. Quand vous allez dans un champ avec votre selle et que vous vous précipitez sur le cheval, en général, il se dit oh là, si vous y allez, que vous attendez tranquillement, vous lui laissez le temps de vous voir arriver. Et je pense que pour les oiseaux, c'est pareil. Ça. Vous marchez, vous arrêtez.
Exactement.
Vous remarchez, vous arrêtez. Vous n'y allez pas directement. Et dernière chose sur le sens de l'observation dont Philippe parlait. En fait, l'observation, c'est une des clés de réussite dans la vie, d'intelligence de la vie, de la chance de la vie. On a prouvé que les gens qui avaient de la chance, c'est les gens qui ont le sens de l'observation parce qu'ils savent reconnaître des choses. Et je me souviens d'une expérience à Harvard, je crois, qui a été faite comme ça. On donnait rendez-vous à quelqu'un et on mettait un gros billet de banque sur le trottoir. Et la plupart des gens qui disaient toujours qu'ils n'avaient jamais de bol, ils se précipitaient sur le truc, ils marchaient dessus, ils faisaient pas gaffe. Et tous ceux qui disaient, moi, je suis pas dans la vie, j'ai toujours du bol, ils arrivaient, regardaient, oh, génial, il y a un billet, et ils prenaient le billet. Bon, c'est une expérience comme ça. Mais je pense que de déguiser son sens de l'observation, ça rend service dans la vie de tous les jours. Donc les oiseaux nous rendent service tous les jours, en fait.
Alors, certains d'entre nous sont effrayés par les oiseaux. On parle d'ornithophobie. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le psychiatre Antoine Pellissolo. Bonjour.
Bonjour Alice.
Bonjour professeur Pellissolo, vous êtes psychiatre chef de service au CHU Henri Mondor. Vous êtes le co-auteur chez Odile Jacob avec Patrick Légeron et Christophe André de La Nouvelle Peur des Autres. Alors avant de nous expliquer les spécificités de la phobie des oiseaux, pouvez-vous nous rappeler, professeur Pellissolo, ce qu'est une phobie et ce qui la distingue d'une peur ordinaire, d'une simple peur ?
Oui, c'est une question de degré. La phobie, c'est la peur que vous avez tout le temps, qui va survenir à chaque fois que vous êtes confronté à l'objet de la peur, et au point de vous paralyser, de créer une angoisse vraiment forte, et pas juste une gêne ou une inquiétude. Donc c'est une question de degré, puisque c'est en fait la phobie, c'est la peur qui prend le contrôle en fait de vos émotions et de votre comportement.
Quelles sont les spécificités de la phobie des oiseaux, de cette ornithophobie ?
Alors d'une part, elle est fréquente. Les zoophobies en général sont fréquentes, hein, la peur des animaux. Et effectivement, on voit des personnes qui ont de manière, on a l'impression un peu innée, c'est-à-dire que c'est vraiment en elles une crainte forte du contact avec l'oiseau. Et c'est souvent un mélange de peur et de dégoût. Hein. Il y a des choses qui sont toujours un peu ces émotions-là multiples dans les phobies, donc de crainte d'être agressée, d'être soumise à une attaque ou éventuellement d'être au contact et donc ce qui est ressemblé à un dégoût parce que la peur d'être sali, d'être contaminé par quelque chose. Et donc c'est le fait d'être obsédé dans les situations où on peut trouver des oiseaux. Alors évidemment, quand vous êtes chez vous, dans votre domicile, il y a peu de raisons d'y penser, mais les personnes qui sont phobiques ont tendance à évidemment être hyper vigilantes dès qu'elles sont à l'extérieur, voire même à éviter, et c'est là qu'on a un degré maximal de la phobie, c'est quand vous ne pouvez plus, en gros, avoir votre liberté d'action, aller où vous voulez aller et faire les choses que vous auriez envie de faire par ailleurs.
Et c'est vrai, Antoine Pellissolo, que les personnes phobiques des oiseaux adoptent un ensemble de stratégies pour éviter de les croiser. C'est une phobie qui peut s'avérer très handicapante parce qu'on est entouré d'oiseaux, peut-être un petit peu moins en ville, même s'il y a des pigeons dans les grandes villes et certains sont phobiques plus spécifiquement des pigeons, mais difficile d'échapper aux oiseaux.
Difficile, même si, bon, heureusement, le plus souvent, il n'y a pas d'évitement. Par exemple, j'ai très peu vu de personnes qui évitaient complètement de sortir de chez elles. Alors, que ce soit en ville ou à la campagne, c'est sûr qu'il peut y avoir des animaux, enfin des oiseaux un peu partout. Souvent, il y a cette espèce d'hypervigilance dont je vous parlais, ce qui fait que c'est plutôt une altération vraiment de la qualité de vie au quotidien, du bien-être, que vraiment un handicap. L'évitement, il peut être, par exemple, de ne pas s'installer à une terrasse de café ou de pas aller sur les grandes places, par exemple, où on sait qu'il y a plus de pigeons qu'ailleurs. Je ne vous parle pas notamment de Venise, par exemple, qui serait le pire, qui pourrait être évité complètement. Mais donc, c'est plutôt un mélange comme ça de stress et d'hypervigilance permanent et de moments de peur plus intenses.
Professeur Pellissolo, comment expliquer une telle phobie des oiseaux? Par exemple, la vue d'un oiseau mort quand on était enfant, ça peut être traumatisant, ça peut expliquer en partie une phobie.
Alors c'est toujours le grand mystère hein, dans l'explication de ces peurs assez profondes et souvent un peu archaïques. Évidemment, des traumatismes comme celui-ci, effectivement, un oiseau mort, mais là dans ce cas-là, ça rejoint plutôt une peur très liée à l'angoisse de la mort, hein, éventuellement. Mais sinon, c'est plutôt des souvenirs d'avoir été témoin ou d'avoir vécu soi-même une agression. Alors c'est rare avec les oiseaux, ça se voit plus avec d'autres animaux, mais ça peut être une partie de l'explication pour certaines personnes. L'autre partie, enfin, l'hypothèse la plus courante et probable, c'est qu'on a tous en nous, en fait, une trace de peur, je vous disais, archaïque, c'est-à-dire qui sont nés dans l'évolution de l'être humain, face à des animaux, alors pas les oiseaux, en tout cas actuels, qui sont pas vécus en général comme des vraies menaces, mais qu'on peut assimiler dans notre esprit, dans notre mémoire émotionnelle ancienne, une mémoire vraiment de survie, hein, dans certains cas, donc de se méfier d'animaux qui sont assez mystérieux pour nous, parce que nous ne volons pas, nous n'avons pas de bec, et on peut se sentir un peu vulnérable. Alors, par exemple, quand on est enfant, de se sentir donc en proie à un risque d'agressivité, d'agression, et on a l'image aussi de ces animaux qui volent et qui peuvent arriver de l'espace à tout moment, et qu'on a du mal à anticiper. Donc, il y a sûrement une trace de peur profonde de l'espèce humaine par rapport à d'autres espèces animales, et qui, chez certaines personnes, est plus transmise que chez d'autres, et c'est là toute la variation. Alors que, évidemment, et j'ai bien entendu et je souscris à tout ce que vous avez dit avant sur le bienfait de la nature et des oiseaux en particulier pour combattre le stress, mais c'est les fameux paradoxes de la psychologie humaine, on peut avoir les deux versants de la même, enfin d'une pièce du côté, là, dans, pour certaines personnes en tout cas, de générer une peur profonde.
Alors, professeur Pellissolo, un invité me disait récemment qu'après avoir vu le film Les Oiseaux d'Hitchcock, son fils avait développé une véritable phobie des oiseaux.
Et bien sûr, bien sûr. Tout ce qui peut être très fort là au niveau émotionnel, et le film est vraiment fait pour ça, pour choquer, pour créer des émotions vives. Malheureusement, pour certaines personnes, sûrement, soit un peu sensibles aux émotions de peur, soit aussi avec une prédisposition peut-être à cette peur-là en particulier, peut être le déclenchement, bon, qu'on assimile assez souvent à un traumatisme, même si c'est un traumatisme là indirect, hein, puisque c'est pas soi-même avoir vécu une agression. Mais tout ce qui est violent dans cette agressivité potentielle peut, en effet, peut-être générer. Alors après, est-ce que ça ne serait pas apparu autrement ? C'est très difficile à dire. Mais c'est souvent un élément, effectivement, déclencheur, en tout cas de départ de cette phobie.
Élise Rousseau, Philippe Dubois, rappelons que les attaques d'oiseaux sont très rares. La plupart des oiseaux sont inoffensifs, Philippe Dubois.
Absolument.
Les
totalement.
Autruches, peut-être, qui peuvent être.
Oui, c'est vrai que l'autruche, c'est probablement l'oiseau.
Un peu agressif.
Oui, vous avez complètement
raison. Mais c'est rare, on n'a pas d'autruche.
Non, mais je pense que, justement, pour prolonger ce qui vient d'être dit, c'est que, bon, d'abord, le film Les oiseaux de Hitchcock, c'est quand même une fiction, et donc, c'est justement pour faire peur. Et la peur des oiseaux, je pense qu'il faut aussi l'assimiler à cette peur ancestrale de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, autrefois, les paysans clouaient les chouettes sur les portes des granges pour éloigner cette mort. Parce que pour eux, la chouette qui était nocturne, la nuit, le noir, la mort, tout ça, c'était en fait une espèce de représentation de ce qui nous fait peur à tous, c'est-à-dire la fin de vie et la mort. Et c'était juste que les rapaces nocturnes, chouettes et hiboux, étaient devenus les intercesseurs entre cette crainte millénaire, enfin, liée totalement à l'espèce humaine, car les oiseaux n'ont pas peur de la mort, et puis eux-mêmes.
Et c'est vrai que vous avez raison, Philippe Dubois, la peur, la phobie des oiseaux se nourrit aussi des préjugés, des fausses croyances sur les oiseaux.
Oui, je pense que c'est ça.
Et sur les pigeons en particulier, vous les aimez les pigeons, Yolaine Delabien ?
J'adore les pigeons, c'est un
oiseau génial. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes phobiques des pigeons ? Il y en a beaucoup, il y en a énormément qui me disent « Ah, ce sont des rats volants
». Mais c'est faux en fait, c'est un médecin qui a lancé ça dans les années 50, il n'y a jamais eu aucune preuve scientifique de ça. Les pigeons ne portent pas de maladie aux humains, ou alors c'est vraiment tout à fait exceptionnel, comme les humains peuvent se donner des maladies entre eux, donc le problème n'est pas là. Non, c'est surtout qu'on voit le pigeon comme un espèce d'envahisseur, alors que c'est un animal hyper intelligent, empathique, qui a une vie sociale extraordinaire.
Il nous a rendu bien des services quand il était pigeon voyageur.
Alors en plus, il nous a nourris, il a porté des messages pendant la guerre, il est mort, hein, ouais. Il y en a beaucoup qui sont morts. Donc c'est un animal formidable, et puis je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on ne l'aime pas. Pour le problème de la propreté aussi, on pourra en parler, cette obsession de la propreté.
En quelques mots, professeur Pellissolo, comment traiter une phobie des oiseaux par les thérapies comportementales et cognitives, les fameuses TCC, c'est le traitement de première intention.
Absolument, comme pour les autres phobies, on en a parlé souvent. Le principe, c'est d'abord de se familiariser un petit peu avec tout ce qu'on vient de dire, être plus en sécurité avec l'idée qu'un oiseau, par exemple, n'est pas dangereux du tout, n'est pas dangereux pour même les maladies, comme on vient de le dire. Il faut quand même casser certaines idées reçues, et puis ensuite, en fait, se réhabituer. Habituer son cerveau à être à côté d'un oiseau sans être réellement menacé, c'est en fait une rééducation du cerveau émotionnel avec quelque chose de progressif, parce qu'il ne faut pas le faire violemment, mais donc toutes les thérapies, c'est une approche, et là, dans ce cas-là, c'est vraiment une question de distance notamment, ça peut être avec des photos d'abord, des films ensuite, et puis un vrai oiseau après, où on fait un réapprentissage du contact serein, parce que accompagné par un thérapeute, et ça marche plutôt très bien.
Et la thérapie est réussie quand on arrive à regarder jusqu'au bout les oiseaux d'Hitchcock. Merci beaucoup, professeur Pellissolo, d'être intervenu dans cette émission. Il est 10h46, l'heure de retrouver Ma vie de parent de Gonaël Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Alors, Gonaël Boulet, ce matin, face à ce parterre d'amoureux des oiseaux, vous avez envie de vous cacher sous la table.
Mais oui, j'ai honte. J'ai tellement honte d'être aussi nulle en ornithologie. Pire que ça, quand j'entends à quel point écouter le chant des oiseaux peut nous faire du bien, faire baisser notre stress, notre anxiété, nous connecter au monde, cela me renvoie une fois de plus au terrible constat d'échec que je suis une mère nulle, qui ne véhicule que des valeurs superficielles à ses enfants, les faisant passer à côté de la profondeur de la vie. L'art d'observer la nature, de jouir du simple chant des oiseaux ou de la scrutation d'une coccinelle. Ah, un cri de frustration. J'aimerais tellement être ce parent capable de proposer des expériences contemplatives à mes enfants afin d'opposer une résistance passive à la marche du monde. Elle est belle cette phrase, hein. Figurez-vous que je l'ai tirée d'un excellent roman d'Ali Reveilly ce week-end. Bref, proposer à mes enfants de lever un peu les yeux vers le ciel pour se nourrir de la création.
Mais chez vous, Gonaël, si vos enfants lèvent les yeux au ciel, c'est souvent pour d'autres raisons.
Et oui, dure réalité. En effet, si chez nous ça lève beaucoup les yeux au ciel, ce n'est malheureusement pas pour regarder les maisons charbonnières ou les tourterelles turques, non. C'est plutôt pour nous signifier à nous, leurs parents, que la phrase que nous venons de prononcer ou le geste que nous venons d'avoir est d'une bêtise crasse, inappropriée, nulle et non avenue, totalement à côté de la plaque. Bref, la gravité de nos paroles est telle qu'à cet instant T, seuls les yeux au ciel peuvent exprimer le mépris que nous méritons. Et il est vrai que des phrases aussi saugrenues que « Peux-tu ranger ta chambre, s'il te plaît ? Peux-tu descendre ton linge sale ? Au niveau du DST de maths, c'est bon, c'est géré ? Ou juste un petit bisou ?» ne méritent qu'une chose, le mépris de leurs yeux au ciel. Pas un mot de plus, économie de moyens pour un rendu d'une parfaite efficacité. Alors que le langage existe chez les humains, il y a un âge où les yeux au ciel viennent remplacer chez nos enfants tout un pan de vocabulaire chèrement acquis les années précédentes.
Et tel un ornithologue qui apprend à décrypter le langage des oiseaux, vous apprenez à décrypter le langage des ados.
Voilà, c'est ça. Alors soyons honnêtes, je n'ai pas toujours la patience de faire ce travail de fourmi, hein, vous l'aurez compris, la qualité contemplative me manque parfois. Alors il m'arrive de régler la question au moins de deux en mode « Ah ouais, tu lèves les yeux, non mais un peu de respect, je suis pas ta copine, file dans ta chambre. » C'est pas hyper élaboré, c'est pas hyper prometteur de dialogue, mais bon, ça a l'avantage de ne pas allumer la mèche du pétard. En revanche, dans les bons moments, quand la patience s'offre à moi, je tente de m'interroger ce petit effet d'insolence. Après tout, les yeux au ciel ne sont-ils pas une jolie affirmation de soi de la part de nos ados ? Comment puis-je l'aider à dire les choses de façon plus socialement appropriée et accessoirement aider nos ados à amadouer leurs parents, les adultes en général, pour obtenir de meilleurs résultats ? L'objet de ma demande ou la façon dont je la formule sont-ils si appropriés ? Après tout, lui offrons-nous toujours des modèles de communication apaisés ? Bof bof. Est-ce que je n'ai pas touché quelque chose de sensible ? Est-ce que parmi les 100 000 consignes que je lui ai fait tomber dessus, je ne peux pas renoncer à certaines. Bref, autant de raisons de lever les yeux au ciel qu'il faut parfois le coup d'analyser un peu si l'on veut tenter de garder le lien avec ces drôles d'oiseaux que sont nos ados.
Merci beaucoup, Gonaël Boulet. Tiens, je vous signale la sortie de l'intégrale Les Grandes Vacances chez Bayard Jeunesse. C'est idéal en ce moment, pendant les vacances.
Ça sort aujourd'hui, donc c'est une très grosse BD sur la Seconde Guerre mondiale qui est un petit bijou. Et ça sort aujourd'hui.
Et tous les épisodes de Ma vie de parent de Gonaël Boulet sont à retrouver sur l'appli Radio France.
Allez, Rébé.
Vous savez, le pigeon est beaucoup plus difficile qu'on ne pense.
Grand bien vous fasse.
On croit l'avoir eu, et hop, il revient vous faire caca sur la tête.
Mais c'est dégoûtant.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux oiseaux qui nous font du bien. Tiens, je vous propose d'écouter le chant du chardonneret élégant. Alors, Élise Rousseau, Philippe Dubois, je rappelle que vous êtes les co-auteurs d'Ornithérapie. Observez, écouter les oiseaux, c'est une manière de pratiquer la pleine conscience. C'est une forme de méditation ornithologique, Philippe Dubois, Élise Rousseau, une sorte de nettoyage mental de nos pensées, de nos ruminations.
C'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cet ancrage dans le temps présent, en fait. Dès qu'on commence à les écouter attentivement, en fait, ils nous recentrent. Et c'est vrai qu'aussi, il y a aussi certaines pratiques ornithologiques, notamment Philippe pratique le sea-watching, donc c'est l'observation des oiseaux de mer, en fait. Et ça peut créer presque au bout de quelques temps d'observation, quelque chose d'un peu hypnotique. Donc c'est vrai que l'animal, en fait, nous procure assez rapidement cet état de méditation de pleine conscience qui nous demande peut-être plus d'efforts à atteindre sans eux.
Un exercice peut-être à pratiquer, un exercice de méditation avec les chants d'oiseaux, Élise Rousseau.
Par exemple, c'est vrai que moi, avant de venir à Paris, là, le vendredi, je me suis mis dans mon jardin et j'écoute les oiseaux. Je me suis assise et j'ai respiré doucement. Je me suis mis un peu dans cet état de méditation de pleine conscience et je me suis mis à entendre tous les oiseaux qui chantaient autour de chez moi. Et pour la première fois du printemps, j'ai entendu le coucou, par exemple, qui est un oiseau qui me met toujours dans une grande joie. On dit souvent qu'il faut faire un vœu quand on entend pour la première fois le coucou chanter. Et ça m'a procuré une joie et je suis persuadée que ça m'a accompagnée ensuite pour la suite de mon cheminement.
Je vous cite page 121 de votre livre. Vous fermez les yeux, respirez profondément, sentez l'air entrer par vos narines à l'inspiration, frais à cet instant-là, chaud à l'expiration, relâchez vos épaules et vous écoutez, vous percevez tous les sons que produit cet oiseau, son chant, ses trilles, les modulations de sa mélodie, tout comme les indispensables intervalles de silence entre deux strophes. Imprégnez-vous de cette musique naturelle qu'il produit, les oreilles grandes ouvertes. Et là, que se passe-t-il, Philippe Dubois, dans cet état de pleine conscience ornithologique ?
Mais c'est exactement ça, c'est vraiment la pleine conscience. Moi, je suis frappé...
C'est gratuit et naturel, en plus.
C'est gratuit et naturel. Moi, j'ai été frappé, justement, en Asie, notamment au Japon, où les Japonais pratiquent beaucoup le bain d'arbre, qui me faisait un peu rire, jusqu'au moment où j'ai vu les Japonais le faire. Et je trouve que, de la même façon, on pratique ce bain d'oiseaux qui va, comme on le disait tout à l'heure, nous relâcher, nous faire un bien extraordinaire. Et je pense que c'est vraiment une expérience. J'engage tous les auditeurs et les auditrices à le faire au moins une fois. Et je suis sûr qu'ils le referont.
Oui, je pense que vraiment, ça crée vraiment un sentiment d'ancrage et on ressent vraiment une forme de gratitude en fait. La gratitude simplement envers la nature, envers la vie et ça fait du bien.
Mmh. Yulène Delabigne.
Dans les bienfaits dont vous parlez dans votre livre, j'ai découvert le mot congruence animale. Ouais. En fait, les animaux ne mentent pas. Ça me rappelle le livre de Chris Irwin, Les chevaux ne mentent jamais. Les animaux ne mentent pas, ils expriment tout de suite leurs émotions et ça, je trouve que c'est une très belle leçon pour les humains qui, on est quand même très torturés de ce côté-là.
L'un de vos chants préférés, hein, pour terminer cette émission, Élise Rousseau et Yolaine Delabigne, c'est la chouette Hulotte.
C'est vraiment, moi ça me fait des frissons en fait, à chaque fois que je l'entends, je ferme les yeux quand je suis dans la nature, nuit de pleine lune en hiver, il y a la Hulotte qui est en train de draguer ses copines dans les bois, et c'est vraiment un chant, on nous apprend que c'est un chant lugubre, la Hulotte c'est pas du tout vrai, c'est un chant de puissance, c'est un chant d'amour, c'est un chant qui habite la nuit, moi c'est un chant qui m'a fait aimer la nuit, qui m'a rassurée avec la nuit, j'ai plus peur de la nuit depuis que je sais entendre les chants de tous ces animaux nocturnes.
Moi, je l'adore déjà parce que c'est une des rares que je reconnaisse. Donc j'ai l'air
fort. Bienvenue au club.
Voilà. Et puis c'est le mystère, c'est extraordinaire. C'est la porte ouverte sur un univers incroyable qui m'échappe. Et je trouve ça magnifique, c'est comme un film.
Et vous, Philippe Dubois, pour terminer, votre chant préféré, eh bien, c'est celui de la grive musicienne.
Dans la grive musicienne, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a jamais une strophe qui ressemble à la précédente. C'est une espèce d'hymne à l'inspiration. C'est une musicienne, c'est comme son nom l'indique, extraordinaire. Et j'aime beaucoup parce que, comme beaucoup de musiciens, comme le rossignol, ce sont des oiseaux qui ont une livrée extrêmement simple. Ils sont tout bruns. Et c'est pourtant des chanteurs, des solistes incroyables. Je peux passer des heures à écouter. C'est une symphonie, c'est une véritable symphonie.
Je termine avec vos mots tirés de votre livre, Élise Rousseau, Philippe Dubois. Que de fois sommes-nous revenus de ces séances d'immersion ornithologique, débroussaillés de soucis ou d'inquiétudes, remis à neuf, en tout cas prêts à affronter de nouveau le quotidien. Voilà, je vous invite vraiment à lire Ornithérapie, c'est publié chez Albin Michel. Merci d'être venu ce matin. Merci. Et merci Yolaine Delabigne, habituée de cette émission. On peut également lire en poche l'animal médecin. Merci beaucoup, merci Gonel Boulet.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.